Interview.
Okay, då börjar vi.
L'interview du jour.
La toccata de Vidor qui permet d'avoir tous les jeux.
Bonjour. Au niveau de cette restauration, est-ce que vous pouvez nous parler des étapes et des stades de ce travail de cette orgue, Adi?
Bon, d'abord, c'est un instrument qui date de la deuxième moitié du 19e siècle, qui a été construit, je crois, pour une église à Marseille, en premier lieu, qui ensuite a été vendu à Die, à la paroisse de Die, pour l'ancienne cathédrale. Et à ce moment-là, il a été démonté et remonté par un autre facteur, un facteur lyonnais, qui s'appelle Merclin, et qui l'a, sur le plan sonore, quelque peu transformé. Voilà. Donc, l'instrument qui vient d'être restauré, donc, est dans l'état dans lequel ce facteur d'orgue lyonnais, Merclin, l'avait mis à ce niveau, donc dans les années, je pense que c'était les années 1890-95, par là, voilà.
Est-ce que, à vous entendre, chaque orgue a sa particularité en fonction du facteur et peut-être aussi des matériaux utilisés?
Il y a plusieurs styles d'orgue dans l'histoire de la facture d'orgue, hein, depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. On a un style d'orgue à la fin du Moyen-Âge, un style d'orgue Renaissance, un style d'orgue classique, baroque, etc. Et au XIXe siècle, on appelle ça le style romantique, qui se poursuit jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et tous les facteurs d'orgue de cette époque travaillent un petit peu dans ce style. Il n'y a pas de différence fondamentale. Il y a des différences sont simplement sur la fabrication, les matériaux employés, et voilà quoi. Et puis il y a des ateliers qui sont de très très haute qualité, et d'autres de qualité plus ordinaire. Voilà. Alors, donc le Ludoti est un instrument qui était à l'origine très très bien fait. Un facteur donc ça a été fait pour une église à Marseille, comme je vous le disais au début. Un facteur qui s'appelait Daublaine et Calinet. Et ensuite, quand il a été transporté à Die, parce qu'il a été acheté à cette paroisse de Marseille pour être transporté dans l'ancienne cathédrale de Die, il a été remonté par un facteur lyonnais qui s'appelait Merclin, et qui l'a significativement transformé au niveau du son et du timbre. Et l'orgue que nous avons pris en charge pour le restaurer était dans cet état-là. Voilà. Et il a été restauré en respectant cet état de Merklin des années 1890.
Ouais. Et il a fallu aussi modifier le pédalier, hein.
Alors, il y a eu une modification qui a été faite au niveau du pédalier, effectivement, pour pouvoir aborder sur cet orgue un répertoire un peu plus large. Avec, il y a des pièces qui sont écrites avec pédale obligée, comme on dit. Donc, il a été rajouté un pédalier qui est en tirasse et deux jeux particuliers. Ça, c'est neuf et ça a été donc construit et adapté par l'atelier Coirin. Voilà.
L'orgue en lui-même, sans pour autant que vous y soyez, que vous ayez travaillé dessus, mais est-ce que vous avez une connaissance du nombre de pièces de cet orgue ?
Oh, je crois qu'il doit faire à peu près 1200, 1300 tuyaux, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu moins, je n'ai pas vraiment calculé. Mais autrement, non, il a les pièces qui constituent l'orgue, c'est les pièces ordinaires d'un orgue tout à fait normal, quoi. Il y a des sommiers, des souffleries, des éléments de transmission, des balanciers, des claviers. Voilà, soufflerie faite avec de la peau de mouton, etc. Et justement, il y a tous les constituants d'un orgue complètement normal. Hein.
Et justement, de nos jours encore, il y a des tanneurs qui proposent des pots pour ces restaurations d'orgue.
Oui, on utilise des pots qui subissent un tannage spécial. C'est pas un tannage au chrome, c'est un tannage tout à fait traditionnel qui fait que les pots durent très très longtemps. C'est un tannage qui est utilisé par exemple pour la fabrication des sacs. Les sacs Vuitton, par exemple, sont faits avec du mégis. Le mégis, c'est une peau de mouton qui a un tannage tout à fait spécial, qui la rend extrêmement douce et très souple. Et on utilise ça pour les orgues aussi. Voilà.
Ça, c'est juste cette particularité de la peau de mouton ou d'agneau qui permet...
C'est de la peau d'agneau, c'est tout. Oui. Voilà.
Ce temps de restauration vous a pris pratiquement un an et demi, je crois.
Oh, ça a dû prendre à peu près... En gros, il y a à peu près 2000 heures de travail, quand même. Voilà.
Et c'est son retour, donc opéré au sein de la cathédrale. Je ne sais pas si vous y étiez présent. C'est votre fils qui donc s'est chargé de cette restauration. Il a fallu adapter et disposer cet orgue sur un autre espace. Hein.
Oui. Il a été déplacé. Il était dans le chœur. Comme le buffet est très très sobre. Et puis que par contre les boiseries du chœur sont très très belles, hein. Il y a un ensemble menuisé qui est vraiment de très haute qualité, tout en noyer et tout ça. Donc il a été déplacé pour être mis sur le côté de l'autel, comme ça, sur la gauche, ce qui fait que le chœur est totalement dégagé et on voit cette très belle ébénisterie dans tout son ensemble. Voilà. Et puis c'est plus pratique, je pense, pour l'organiste, avec un jeu de miroir comme ça, pour voir le célébrant, et puis de manière à ce que quand l'orgue est utilisé pour le culte, ça puisse bien se coordonner avec les gens qui dirigent le chant, etc. Voilà.
Un orgue
bonne place acoustiquement aussi.
Un orgue s'accorde également, j'imagine, et pour cela, vous avez aussi l'aide de l'organiste qui vous précise les lacunes ou les améliorations à amener ?
Non.
Non, vous avez une certaine autonomie. Est-ce que vous-même jouez de l'orgue ?
En principe, on est assez grand pour savoir s'il ne va pas dans un orgue. On n'a pas besoin que l'organiste nous le dise, déjà,
oui.
D'une part. Et puis les organistes, bon, ils jouent des notes, hein, des pièces, des trucs comme ça, mais ils ne sont pas du tout formés pour faire un diagnostic quand il y a un événement qui se passe, un mécanique, etc. Donc, il faudrait, en fait, idéalement, c'est que les organistes acceptent d'être un petit peu formés pour la maintenance de leur orgue, de même qu'un violoniste, par exemple, sait changer une corde de son violon ou régler l'âme de son violon, etc. Les chevilles et tout ça, il ne va pas à chaque fois chez le luthier. Mais les organistes, les clavecinistes, par exemple, accordent eux-mêmes leur clavecin. Moi, je connais beaucoup de pianistes, exactement, qui sont capables également de maintenir l'accord de leur piano et même de faire des petits réglages mécaniques. Mais les organistes sont rétifs à ce genre de choses comme ça. C'est très, très dur d'obtenir de leur part de s'investir un petit peu sur leur instrument. Ils viennent, ils jouent, et puis voilà, quoi. C'est pas le cas de tous, hein. Pas le cas de tous. Il y a des organistes. D'ailleurs, là, ceux qui sont d'un très, très bon niveau, ils font ça sans aucun problème. Mais généralement, ceux qui veulent pas être formés, vaut mieux qu'ils touchent pas l'orgue, parce que c'est très facile de déranger quelque chose dans un orgue. Et après, ça fait du travail en plus et ça fait des problèmes, quoi.
Vous proposez des formations, justement, dans cet entretien d'orgue?
Oui, on l'a fait plusieurs fois dans notre atelier, oui. On l'a fait une ou deux fois, puis on voulait que ça se répète chaque année. Et puis finalement, il n'y a pas eu de candidat, donc on a arrêté.
Comment vous est venue cette passion pour la facture d'orgue?
Oh ben, vous savez, moi, je ne sais pas si je peux parler de passion aujourd'hui. Moi, je suis depuis l'âge de 15 ans dans ce métier, j'ai 76 ans. Alors, je peux blinder, quoi. Mais enfin bon, c'est un métier, si on s'y intéresse pas, vaut mieux pas le faire, hein.
Il y a une magie quand même dans cet instrument avec toutes ces sonorités. Pour vous, c'est aussi un peu aller sur le fait de trouver les bonnes sections de tuyaux et de longueur.
Oui, non, mais c'est un instrument qui a ses règles de construction, etc. C'est pas très très compliqué. Hein. C'est pas très très compliqué. Chaque tuyau donne un son. Donc, si le clavier fait 56 touches, il y a donc 5, pour chaque jeu, il y a 56 tuyaux. Et ben, si on harmonise bien chacun des tuyaux, on a un bel orgue. C'est beaucoup plus compliqué pour un facteur de flûte, par exemple, avec un seul tuyau, il doit faire autant de notes et il faut que toutes ces notes soient belles. Le problème est un petit peu plus complexe. Vous voyez ? Alors, dans l'orgue, effectivement, on voit des mécanismes, on dit, oh là, c'est compliqué, il y en a beaucoup, il y a des renvois, des choses comme ça. Mais c'est très basique, hein, c'est ça. Bon, il y a des règles, il y a des choses qu'il faut savoir, surtout quand l'instrument est grand, hein, celui de 10, c'est un tout petit instrument. Hein. Dans un orgue comme celui de Notre-Dame de Paris, par exemple, effectivement, là, on peut dire que c'est un petit peu plus compliqué. Mais le système de base, le concept de base de l'orgue est simple. Voilà.
Dernière question, comment s'opère l'attribution de restauration d'orgues en France?
Ben, ce sont des appels d'offres parce que les orgues appartiennent aux communes. D'après la loi de 1905, tout ce qui a été acquis avant la loi de 1905 appartient aux communes ou appartiennent à l'État quand il s'agit des églises cathédrales. Bon, l'église de Die n'est plus une église cathédrale puisqu'il n'y a plus d'évêque. C'est une église communale. Voilà. Bon. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de l'église appartient à la commune. Donc, quand le propriétaire de l'orgue, qui est donc la commune de Die, décide de faire la restauration de l'orgue, la loi l'oblige à faire un appel d'offres. Voilà, et consulter plusieurs ateliers facteurs d'orgue sur un programme de travaux. Et voilà, et donc les offres sont étudiées et puis analysées et attribuées. Voilà, ça se passe comme ça. Oui, normalement.
Monsieur Pascal Coirin, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps. Monsieur Philippe Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Philippe Lefebvre, vous êtes organiste titulaire de Notre-Dame de Paris jusqu'en 2024. Et là, vous êtes venu et intervenu sur cet orgue pour un concert inaugural à Die, dans la cathédrale. Pour vous, il y a une quinzaine d'années, vous vous êtes rendu justement à cette cathédrale et vous aviez interpellé Madame Sirène, qui était en train de jouer, et vous lui avez dit « cet orgue vaut le coup d'être restauré ».
Oui, absolument, parce que j'avais eu la chance de venir, j'avais donné un concert dans la région, à Saint-Donat, et un ami m'avait dit « il faut qu'on aille à Die pour voir cet orgue, parce que c'est un orgue qui a des qualités, qui est fatigué, et il voulait me demander ce que j'en pensais. Et donc il y avait Monique Sirène était là, et j'ai vu cet orgue qui était à l'époque était placé dans le chœur derrière l'autel, et j'ai trouvé que cet orgue avait, j'allais dire, un bon fond, comme on dit. Voilà. Et même s'il était vieux, fatigué, etc., mais on sentait toutes les possibilités, et notamment la base de l'orgue, c'est justement ce qu'on appelle les fonds, les fondations d'un orgue, et ça c'est le plus important. Et j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Et la deuxième chose qu'on avait évoquée, j'avais dit, mais finalement, c'est dommage qu'il soit là dans le cœur de l'église, parce que pour deux raisons. Bah, d'abord, il prend beaucoup de place, et donc ça cachait un peu les tableaux qui sont derrière, qui sont magnifiques. Et ça faisait moins d'espace aussi pour le culte, puisque c'est d'abord une église et c'est pour le culte. Et j'ai dit, mais en plus, s'il était mis sur le côté, il prendrait beaucoup plus d'apparence, on en profiterait plus. Et ça permettrait aussi que quand on veut faire un concert ou qu'on a un office avec une chorale, ils sont à proximité. Dans le chœur, on est très loin. Et donc, c'est tout ça qu'on a discuté. Et je me suis réjoui. Après, j'ai suivi ça avec Monique Sirène, qui me tenait au courant, que les choses avançaient, etc. Et ce qui a été formidable, c'est qu'effectivement, eh bien, la commune de s'est lancé dans cette opération, Madame le maire l'a rappelé, avec, et ce qui est aussi important de mesurer que eh bien, la restauration de cet orgue a fait l'objet de beaucoup de soutien, d'abord des collectivités publiques, mais aussi des donateurs, donc c'est une œuvre collective, et ça c'est, je trouve, le plus important.
Est-ce que cet orgue de Die a une spécificité ?
Alors, il a une spécificité parce qu'il est d'une époque de la première moitié du 19e siècle, un facteur d'orgue français qui était installé plutôt dans la partie est de la France, qui a fait beaucoup d'orgues. Et ça fait des sons qui sont en général assez fins et raffinés. C'est-à-dire la base qu'on appelle les fondations, qu'on appelle les jeux de fond d'ailleurs, c'est des jeux très poétiques et le son est très raffiné. Et les deuxièmes sonorités qu'on a, c'est-à-dire des jeux éclatants, ça s'appelle trompette, éclairons comme les instruments, eux sont très lumineux. Et c'est ça la caractéristique de cet orgue. À la fois la poésie dans les jeux doux et l'éclat, la brillance et la lumière dans les jeux forts. Mais alors que c'est un petit instrument. Et on le sait, parce que d'abord, au départ, c'était un orgue qui était un orgue de chœur, et non pas un orgue de tribune, et qui finalement a beaucoup de possibilités musicales dans de très belles sonorités.
Dans les propositions que vous avez faites aujourd'hui, est-ce que vous avez pu justement optimiser sa capacité ?
Voilà, exactement. Donc j'ai choisi justement de retracer un petit peu l'histoire. Quand on a des orgues, effectivement, ben, on joue la musique de ceux qui vous ont précédé. Donc j'ai commencé par le 18e siècle avec un compositeur français, puis Jean-Sébastien Bach. C'est la référence pour la musique et pour l'orgue notamment. Et puis le 19e siècle, parce que finalement cet orgue, il est des années 1845. Et on nous a dit, ben, qu'est-ce qu'il y a comme compositeur de l'époque de l'orgue ? Et c'était ça l'idée, parce que je me dis, ben, là, c'est très adapté à cet instrument. Mais en même temps, on peut aussi jouer plein d'autres choses. C'est pour ça que j'ai joué des œuvres plus récentes aussi, du XXe siècle. Et il suffit d'après, c'est le travail de l'organiste, c'est de s'adapter à l'instrument pour voir comment on peut, eh bien, j'allais dire, manager tout ça pour tirer le meilleur de l'orgue.
Alors, en ce qui concerne les compositeurs, est-ce que la grande majorité était plutôt pour une musique liturgique ?
Pas tous,
mais justement, oui. Je voulais venir là-dessus. Oui. Est-ce qu'il y a des compositeurs qui se sont intéressés à cet instrument en tant que musicien ?
Absolument. Par exemple, Jean-Sébastien Bach. Il a écrit plein d'œuvres d'orgue qui ne sont pas forcément des œuvres liturgiques. C'est des œuvres qu'il a composées pour se faire plaisir, pour inventer des œuvres, pour créer des choses. Par exemple, j'ai joué une fugue de Jean-Sébastien Bach qui, au départ, était composée pour le violon. Donc, je voulais dire, elle n'était pas destinée à être jouée dans un office religieux. C'est une œuvre qui était une œuvre de concert, en fait. Donc ça prouve qu'effectivement, on peut jouer plein de ça. Mais en même temps, il y a des œuvres qui sont inspirées, bien entendu, de chants, par exemple, de la liturgie, ce qui était le cas avec un Noël ancien, qui sont destinés au culte. Et par exemple, la musique de Robert Schumann, que j'ai jouée, n'est pas du tout destinée à être jouée pour le culte. Et donc, c'est aussi des inspirations de compositeurs. Ils sont inspirés par le son de l'orgue. C'est ça qui les intéresse.
Vous êtes arrivé depuis 2 ou 3 jours, hein, peut-être pour vous adapter aussi, à découvrir un peu ce jeu. Est-ce que vous avez vous-même peut-être prêté votre oreille sur sa restauration ?
Oui, j'ai suivi ça parce que Monique Sirène m'a tenu au courant, notamment par le fait qu'il y a la restauration de l'orgue. Et en même temps, comme c'était un orgue qui était petit et qu'on est dans une grande église, il n'y avait pas ce qu'on appelle de jeu de pédales indépendant. C'est-à-dire que sur un orgue, il y a les claviers, mais aussi il y a un clavier pour les pieds. Et le clavier pour les pieds, normalement, il a ses sonorités propres à lui. Et sur cet orgue, sans doute à l'époque, c'était pour des raisons économiques, ils n'ont pas pu faire ça. Donc l'idée, c'était de dire, ben, on va rajouter ça, ce qui donne plus d'ampleur à l'instrument. Et ça, Monique Sirène m'avait tenu informé de ça, j'avais dit, ben, ça, si vous pouvez faire ça, ça apportera un plus évident.
Cet orgue aussi nécessite parfois plusieurs personnes. Hein. Oui. Pendant le concert, il y avait des assistants qui activaient certaines tirettes.
Oui.
Et c'est courant, ça
Oui, c'est courant. C'est courant parce qu'en fait, quand vous êtes en train de jouer, vous avez les mains prises. Et à un des moments, le compositeur, il dit, ben, là, il faut une autre sonorité. Mais vous ne pouvez pas arrêter de jouer et changer tout ça, parce que tout ça s'active manuellement en tirant sur ce que vous dites, des tirettes. Ça s'appelle des tirants, d'ailleurs. Et donc, il faut quelqu'un. Aujourd'hui, au XXe siècle, quand on fait des orgues aujourd'hui modernes, on a des apports électriques, informatiques qui permettent de faire ça. Mais tous les orgues anciens n'avaient pas ça, forcément. Il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas l'informatique, il n'y avait pas tout ça. Et donc, tout se fait manuellement. Et donc, il faut quelqu'un qu'on appelle un assistant qui est souvent à vos côtés et qui, à un moment donné, va actionner ce dont on a besoin. Et ça se répète. C'est pour ça qu'effectivement, pour un concert, on arrive plusieurs jours avant pour faire tous ces repérages et répéter ces manœuvres.
Alors vous-même étiez délégué aussi sur la France pour aller justement à la découverte des orgues. Est-ce que il y a un grand patrimoine justement musical avec ces orgues ?
Alors, on a la chance en France. On est sans doute l'un des pays d'Europe, avec l'Allemagne, où il y a le plus d'orgues. Mais l'Allemagne, malheureusement, avec les deux guerres, et la deuxième a été plus détruite que nous. Et nous, on a la chance d'avoir beaucoup plus de patrimoine d'anciens du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle, et du début du XXe siècle, d'ailleurs. On a 8500 orgues en France. Et moi, je m'occupe d'une association qui s'appelle Orgue en France, et qui s'est donnée comme mission, il y a quelques années, d'abord de faire l'inventaire de tous les orgues. On les a tous répertoriés, c'est accessible pour tout le monde, gratuitement, dans Internet, l'inventaire national des orgues. On a été aidé par le ministère de la Culture pour ça. Et notre association, elle sert aussi, j'allais dire, de centre de ressources, comme par exemple, ici, quand Monique, elle m'a contacté, elle m'a dit, ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pouvez nous aider pour nous donner quelques conseils sur... Voilà. Donc on est très sollicité par... des petites communes comme des grandes, pour dire bah, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer l'orgue, etc.
Et j'ai appris aussi que vous étiez plutôt sur d'autres continents. Est-ce qu'il y a aussi des orgues ?
Ah, oui. Moi, depuis...
C'est la chrétienté qui a amené cette...
C'est la chrétienté, c'est vrai. C'est la chrétienté qui a amené l'orgue dans les églises, d'abord. Et à partir du 19e siècle, on a construit des orgues dans les salles de concert. Ça a commencé en Europe au 19e siècle et rapidement aux États-Unis. Et aujourd'hui, ce qui est un peu particulier, c'est que, par exemple, un des pays qui a construit le plus d'orgues au XXe siècle, c'est l'Union soviétique. Alors que l'Union soviétique, elle n'est pas chrétienne, particulièrement. Et dans les villes, que ce soit en Asie, aux États-Unis, je parlais de la Russie et d'autres, eh bien, on a fait, chaque fois qu'on avait une salle de concert, on mettait un orgue dedans. Donc ça s'est énormément développé au XXe siècle. Et moi, j'ai joué dans tous ces pays, au Japon, aux États-Unis, en Europe, évidemment, en Russie. Et il y a des orgues incroyables partout dans le monde. Voilà. Mais sans être chauvin, il faut quand même dire qu'en France, on a la chance d'avoir des orgues uniques. On a un patrimoine que d'autres n'ont pas. C'est vrai qu'aussi, les États-Unis, c'est un pays récent. Donc ils n'ont pas d'orgue du XVIIIe siècle qu'on nous on a. Et donc ce qui fait que la réputation des orgues français est importante dans le monde. Hein. On a des facteurs d'orgues français qui construisent des orgues. Il y a même aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud. Donc je veux dire, le son français, j'allais dire la French touch, comme on dit, c'est réputé.
Je pensais, quand vous parliez au Canada, il y a parfois aussi des morceaux d'orgue dans les parties de hockey sur glace.
Ah, ça, je ne sais pas du tout.
Ah, ouais. Et je me disais, tiens, c'est étonnant.
C'est bien possible.
Oui.
Il y a beaucoup d'orgues au Canada, justement.
Être titulaire d'un orgue, ça consiste en quoi et quelle est cette mission?
Alors, être titulaire d'un orgue, c'est quelquefois on est seul, quelquefois on est plusieurs, ce qui est le cas à Notre-Dame de Paris, où on était trois. Moi, j'étais organiste avant à Chartres, à la cathédrale de Chartres, on était deux. Bah, d'abord, ça consiste à accompagner les offices. C'est ça le métier d'organiste, c'est ça un organiste titulaire. C'est la priorité, c'est celle-là. Et donc les offices, bah, dans les grands lieux, il y en a tous les dimanches. Voilà. Et il y en a souvent plusieurs. Donc c'est ça être organiste titulaire. Et en même temps, quelque part, en tant qu'organiste, on est un petit peu responsable de l'instrument. Donc on a à la fois l'accompagnement de la liturgie et aussi on est attaché à l'instrument sur lequel, on est un petit peu le gardien de l'orgue pour veiller à ce que tout aille bien, à prévenir s'il y a un problème, etc. etc. Donc il y a les deux actions, si vous voulez.
La transmission, comment s'opère-t-elle entre organistes?
Alors, la transmission, on a la chance en France, non seulement d'avoir un beau patrimoine, mais on a un enseignement de l'orgue qui est très important. Moi, j'étais un professeur d'orgue. Hein. On a en France 200 classes d'orgue publiques, c'est-à-dire qui dépendent des communes ou des collectivités locales. Ce qu'on appelle les conservatoires et les économistes. Il y en a 200, ce qui est considérable par rapport à d'autres pays. Ce qui fait que quelqu'un qui est passionné ou qui a envie de se mettre à l'orgue, il va trouver, il peut aller ici pas loin à Valence, il ira au sud à Avignon, voilà. Et il y en a aussi dans des petites villes. Donc ça, c'est important parce que les orgues, ils ne peuvent jouer que s'il y a des gens pour s'en servir. Donc notre responsabilité, justement, c'est d'intéresser les jeunes, de les former pour qu'ils prennent le relais. Un orgue, c'est comme une voiture. Si vous ne faites pas démarrer le moteur, la batterie ne marchera plus. Donc un orgue, il faut qu'il soit joué. Et au plus il est joué, au mieux il se porte. Voilà. Et ça, c'est pour nous indispensable qu'au-delà du fait que des jeunes s'intéressent à la musique, à l'orgue, etc., en même temps, il faut les préparer à être responsables de ça, de notre patrimoine.
Monsieur Lefebvre, peut-être le bonheur de vous réentendre prochainement ?
Eh bien, j'espère, avec plaisir. C'est toujours, effectivement, un grand moment de venir à Die, ça c'est vrai.
Eh bien, je vous remercie beaucoup.